Radio Notre-Dame. Radio Notre-Dame.
Le grand témoin.
Bonne matinée, bon réveil, ravi de vous retrouver en ce matin du 17 janvier, jeudi 17 janvier, jusqu'à 8h30. Un commentaire pertinent personnel sur l'actualité. Ce matin, c'est le regard de Xavier Guillou, consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique, conseiller du commerce extérieur de la France, qui est avec nous jusqu'à 8h30 avec « Quand la France réagira » aux éditions Erol, et également ses réflexions sur Internet et son site Internet en particulier, xavierguillou.com, G-U-I-L-H-O-U. Pour vous reporter à ces réflexions, en particulier concernant Spécialville, la dernière encyclique du pape qui va nous occuper quelque peu ce matin, puisqu'elle a pour trait principal l'espérance. Et l'espérance, le mot vous fait vibrer, Xavier Guillou.
Oui, c'est un très beau mot. C'est, je lis aussi à Renaissance. Enfin, je veux dire, ces deux mots-là me font vibrer. Il pose quand même beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Hein. Cette vibration n'est pas forcément partagée par tout le monde de la même façon.
Hein. Et ça, vous l'avez observé sur votre site. Vous allez d'ailleurs nous le dire, en particulier avec toutes les réactions que vous avez pu obtenir. C'est quand même assez rare qu'un chef d'entreprise se hasarde sur ce terrain d'une encyclique, celle de Benoît XVI en particulier.
Oui, beaucoup m'ont dit que j'avais fait preuve d'audace, d'autres d'inconscience. Moi, j'ai eu simplement une réaction simple vis-à-vis de ça. D'abord, je recommande à tout le monde de la lire, parce que c'est un petit ouvrage très accessible, contrairement à ce que j'ai entendu ici et là, et qui est plein de ressources. Plein de ressources dans une période où on ouvre le champ du questionnement, de la réflexion, et où on a besoin d'aller sur le fond et de bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'espoir d'un taux de croissance, l'espoir d'une reprise économique, l'espoir d'un meilleur bien-être sur Terre, et puis ce qui est du domaine de l'espérance. C'est un mot qui est beaucoup utilisé ces derniers temps. Enfin, je veux dire.
D'une manière générale, les mots en ans, d'ailleurs, on la cote, oui, à gouvernance, oui, transparence.
Oui, ça c'est les experts en marketing politique et ou en gestion des marques. Elles peuvent être maintenant très personnalisées. On le voit avec le monde politique et qui en use et en abuse. Mais je pense qu'il est important de bien clarifier ce qui est de l'ordre de l'immédiat, de l'instantané. Et ce qui est de l'ordre de la pérennité, voire de l'éternité.
L'espérance porte notre regard plus loin,
ouais,
que l'espoir.
Tout à fait.
Ça, c'est la première caractéristique.
Tout à fait. On peut avoir un espoir de meilleure vie, bon, en améliorant un certain nombre de critères de fonctionnement de la vie. Sur cette dimension du mystère de la vie et de ce qu'elle contient, enfin, tout ce cheminement de la vie contient en soi, c'est une autre affaire.
Alors Xavier Guillou, il y a beaucoup d'actualités ce matin qui vont renvoyer, pas forcément à l'espérance, parce qu'on vous connaît aussi sous l'angle du risque et de la gestion des risques. Alors évidemment, il y a l'ERICA que vous allez commenter, puisque c'est une décision qui fait la une de l'actualité ce matin et de la presse notamment, avec le Figaro. Tenez par exemple cette photo encore de l'ERICA qui est en train de sombrer. ERICA, peine maximale pour Total. La justice a reconnu pour la première fois qu'un préjudice pour atteinte à l'environnement avait été causé lors du naufrage du pétrolier, c'était le 12 décembre 1999. Vous allez analyser cette décision, vous qui connaissez bien la question des risques et toutes les implications que cela va avoir, puisqu'elle va faire jurisprudence. Puis le risque aussi va être vu sous l'angle précisément de notre rapport à l'espérance. Et ça, c'est quelque chose de quelque peu inédit, parce qu'en soi, là, en deux mots, si en 10 secondes, là, en quoi l'espérance et le risque sont-elles liées, justement?
Ben, vous savez, moi je côtoie la plupart des grandes crises au niveau mondial, hein, qu'elles soient sécuritaires ou qu'elles soient technologiques ou sociétaires, et je suis frappé justement par ces forces de vie qui émergent dans des situations qui sont terriblement désespérantes.
À tout de suite, Xavier Guillou, juste après les infos de Jean-Marc Roquez à 7h30.
Je
Bonjour, bonjour les parties civiles. Salut, un jugement historique. 192 millions, amende record infligée hier dans l'affaire du naufrage de l'Erika. C'était en décembre 99. Le pétrolier, vieux de 25 ans, avait alors déversé 20 000 tonnes de fioul lourd, surtout sur les côtes de Vendée. La fréquentation du Croisic en avait pâti durant plusieurs années. Cette station balnéaire figurait d'ailleurs parmi la centaine de parties civiles qui se disent donc ce matin satisfaites. Région du lait de l'Oral Atlantique, organisation de défense de l'environnement ou ostréiculteurs. Chacun salue unanimement ce jugement qualifié d'historique qui reconnaît pour la première fois la notion de préjudice écologique. Près de 200 millions, c'est donc le montant de l'amende prononcée hier par la justice à l'encontre de Total, mais aussi du propriétaire, du gestionnaire et de la société de contrôle qui n'aurait pas dû mégoter sur les réparations de l'Erika. Le Vatican publie le discours que le pape devait prononcer aujourd'hui à la Sapienza. Cette visite, vous le savez, a été annulée à la suite de l'opposition à la venue du pape, exprimée par certains enseignants ou élèves de cette université romaine. Le Saint-Père souligne dans ce texte que la Sapienza était autrefois l'université du pape, mais est aujourd'hui une université laïque, et ajoute que le pape est devenu de plus en plus une voix de la raison éthique de l'humanité, et que la sagesse des grandes traditions religieuses, poursuit le texte, ne peut être impunément jetée à la poubelle de l'histoire des idées. La quasi-totalité de la classe politique italienne, dont le président de la République, Giorgio Napolitano, ont apporté leur soutien au pape. Le cardinal Tarcisio Bertone, bientôt à Cuba, le secrétaire d'État du Vatican et principal collaborateur du pape, se rendra dans l'île. Ce sera du 20 au 26 février. Un voyage à l'occasion du 10e anniversaire du voyage du pape Jean-Paul II à Cuba. C'était en janvier 98. Une indemnisation, celle de Annie Ramadan. En 2002, l'islamiste suisse avait été licencié de son poste d'enseignant à Genève pour avoir justifié publiquement la lapidation des couples adultères. Il va toucher une forte indemnité pour ce licenciement, plus de 200 000 euros. Annie Ramadan est le frère de Tariq Ramadan et tous les deux sont les petits-fils d'Hassan Al-Banna, fondateur des Frères musulmans égyptiens. La révision de la Constitution adoptée hier par les députés, les socialistes se sont abstenus après que les sénateurs se soient prononcés à leur tour. Ce sera dans quelques jours. Ce vote permettra, début février, le congrès de Versailles. La Constitution sera alors modifiée pour permettre l'adoption du traité européen de Lisbonne. Figure historique du mouvement trotskiste français, Pierre Lambert, de son vrai nom Pierre Boussel, candidat à la présidentielle de 88, est mort hier à l'âge de 87 ans. Il était partisan de l'entrisme pour infiltrer tous les milieux de la société. Il avait ainsi envoyé Lionel Jospin au PS.
Radio Notre-Dame.
Bien dans la foi.
Bien dans la vie.
Quelques perturbations, Jean-Marc, sur le réseau Paris-Est.
Voilà, et notamment sur le réseau du train-tram, vous savez, l'ancienne ligne des Coquetiers, qui est du côté de Bondy, Noisy-le-Sec, eh bien, il y a un incident pendant les travaux de maintenance, et donc il n'y a pas de train-tram sur cette petite ligne jusqu'à midi.
Et le grand témoin ce matin, c'est Xavier Guillou, consultant international pour la prévention et la gestion des risques et l'aide à la décision stratégique. Xavier Guillou, quand la France réagira aux éditions Erol. Alors d'abord un commentaire avant d'en venir, si vous le voulez bien, à Spécial Vie, cette encyclique du pape qui a retenu toute votre attention. C'est bien sûr l'Erika dont on disait un mot tout à l'heure, puisque vous qui êtes un spécialiste de ces risques, et de ces risques, on va le voir, de grande échelle avec Katrina qui eut lieu en 2005 et qui a marqué pour vous quand même un événement extrêmement important. L'Erika, donc une décision de justice qui va faire jurisprudence avec des dommages et intérêts extrêmement élevés, 192 millions d'euros, et le tribunal qui a également condamné le groupe Total à une amende record de 375 000 euros. Alors au-delà des chiffres, comment interpréter cette décision de justice?
Que les chiffres sont pas extraordinaires en tant que tels. Enfin, je veux dire, quand je regarde dans la presse la condamnation pour Erika...
Peine et, maximale, hein, dit-on.
Oui, et puis par exemple ce que l'on va donner aux pêcheurs en termes de, je dirais, de compensation, on est quasiment dans les mêmes ordres d'idées. Donc c'est pas les chiffres qui sont importants, c'est la jurisprudence qui est liée à cette affaire. D'abord cette affaire de l'Erika s'inscrit dans un certain nombre de franchissements de seuil que l'on voit aujourd'hui dans la gestion des risques et des crises. C'est-à-dire que dès qu'on a un dégât écologique ou un dégât sur la biosphère ou sur l'écosystème, ça prend des proportions considérables. Là, l'ensemble de la côte a été souillée, elle a été bien abîmée, et donc vous avez derrière une mutualisation, je dirais, de la partie civile. C'est ce franchissement de seuil s'est concrétisé derrière ce procès. Et ce qui s'est concrétisé aussi derrière, c'est la mutualisation du risque par la justice. C'est-à-dire que la stratégie des opérateurs économiques qui consiste à transférer, la responsabilité sur l'un ou sur l'autre, l'affréteur, l'opérateur pétrolier, etc.
A dilué les responsabilités.
Maintenant, c'est terminé. C'est l'ensemble de la chaîne qui est concernée. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne des victimes peut se mobiliser et l'ensemble de la chaîne des fauteurs est condamné. Alors ça, c'est quelque chose qu'on le retrouve un peu partout aujourd'hui. C'est vraiment un franchissement de seuil dans la gestion des risques. On le retrouve dans tous les domaines sur le plan économique. C'est-à-dire que dès qu'aujourd'hui vous avez le moindre problème, le juge, la première chose qu'il fait, c'est il regarde à peu près grosso modo comment a été répartie la responsabilité. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des entrepreneurs qui ont des gros outils industriels qui délèguent, qui délèguent, qui délèguent. Et bon, le juge ne veut pas savoir. Il dit, bon, ok, d'accord, vous avez délégué, mais tout le monde se retrouve. Tous ceux qui ont une délégation de signature, vous venez autour de la table, et puis tout le monde prend son pan pour son grade. Donc ça va obliger les opérateurs économiques à clarifier ce qu'est la responsabilité, et ça va aussi amener peut-être la société civile à clarifier aussi ce qu'est, au-delà de la prise de conscience, ses usages et sa responsabilité d'usager aussi.
Alors l'aide à la décision stratégique, si vous deviez justement conseiller Total à présent, quel serait le type de comportement à adopter maintenant ?
C'est d'être un peu moins cynique. Parce que sur une affaire comme ça, moi je me rappelle très bien des événements. Ces compagnies-là gagnent tellement d'argent sur les marchés. Les marchés à terme, on fera plus de ça, les marchés énergétiques aujourd'hui sont tellement à la hausse que on pourrait considérer ça comme un prix à payer, quoi. Non, je pense qu'il faut être un peu moins cynique sur le plan financier et faire attention au risque d'image, voire au risque de notoriété sur ces affaires-là. Aujourd'hui, on est notamment en Occident, on est face à une prise de conscience de la fragilité de notre biosphère, de la fragilité de notre maîtrise du vivant en général, et ils ne peuvent plus, toutes ces compagnies ne peuvent plus, fonctionner avec une indifférence vis-à-vis du fonctionnement de nos sociétés.
Xavier Guillou, le principe pollueur-payeur a été aussi perçu comme un droit à polluer. En quelque sorte, je vais payer une taxe, Ça va me donner le droit à polluer. Est-ce qu'on ne va pas avoir un système un peu du même ordre, un effet pervers du même ordre, où des compagnies pétrolières vont s'arranger pour que le risque, comme ce sont quand même elles les plus fortes dans l'histoire, soit quand même porté par d'autres, d'une façon ou d'une autre?
Mais ça, on l'a dans tous les secteurs.
Il n'y a pas une échappatoire.
Non, mais on l'a dans tous les secteurs d'activité. Les grands opérateurs de la globalisation, ce qu'on appelle les grands opérateurs de la globalisation, aussi bien là sur ce domaine maritime que dans le domaine aérien ou dans d'autres domaines, regardez le domaine bancaire, ont tendance à essayer de diluer le risque, de déplacer. Regardez par exemple dans l'affaire des subprimes, les banquiers ont déplacé la gestion du risque par la titrisation sur ce qu'on appelle des véhicules financiers. Donc là, on risque d'avoir la même chose. Donc, faut se garder de ce genre de tendance. Alors, il y a deux effets pervers par rapport à ça. C'est de mettre des agences de notation ou des filtres dans tous les sens pour essayer d'avoir la transparence nécessaire ou voulue qu'on souhaite imposer à ces opérateurs. Et la deuxième, c'est de développer un terrorisme écologique sur le plan juridique de l'autre côté. C'est-à-dire que les deux risques que je vois émerger, c'est de l'instrumentalisation d'agences de notation d'un côté pour pouvoir habiller une transparence de l'information, et de l'autre côté un terrorisme juridique qui peut être utilisé par certains leaders d'opinion, notamment dans l'écologie politique, là, en matière d'écologie politique. Je parlerai pas des Khmer verts, mais il y a un risque notoire, et de se faire de l'argent là-dessus
Et de ce point de vue-là, cette affaire crée un précédent de toute façon.
Oui, ça crée un précédent, ça va redéfinir les responsabilités des uns et des autres, mais il faut se garder quand même de ne pas tomber dans ces instrumentalisations périphériques qui pourraient être très, très perverses.
Xavier Guillou, si vous avez vu le jour en Charente-Maritime en 1954, c'est en Allemagne, en Afrique et à Madagascar que vous avez grandi. Vous le dites, avec vos parents, vous avez pleinement vécu la période de la décolonisation, mais aussi toutes les mutations donc, de l'époque, toujours aux avant-postes de l'histoire. Marion Duchesne, votre portrait.
J'ai rencontré beaucoup de personnes audacieuses, enthousiastes, refusant l'adversité, raconte Xavier Guillou. Des rencontres qui, à n'en pas douter, ont largement inspiré son parcours. Fils d'entrepreneur, il étudie d'abord les lettres et les sciences humaines, les mutations, les mouvements de société, le rapport au temps et à l'espace. Cela m'a toujours passionné, répète Xavier Guillou. C'est ce qui le pousse à se spécialiser dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Par la suite, l'homme multiplie les expériences, travaille en entreprise, dans le groupe Hachette ou encore chez Schneider Electric, travaille dans le domaine de la diplomatie, de l'humanitaire et du commerce extérieur. Entre 1982 et 1988, il fait même partie des services secrets français, la DGSE. Officier de réserve, il est de toutes les crises militaires et géopolitiques, la guerre froide, Beyrouth, Sarajevo ou encore l'Afghanistan, l'intelligence économique et stratégique, la gestion des crises, deux mots-clés dans le parcours de Xavier Guillou. Alors bien sûr, l'homme pourrait céder au pessimisme et au catastrophisme ambiant, surtout pas, dit-il, je crois aux vertus de l'imagination et de l'audace. Qui ose gagne. Il n'est donc pas question de s'enfermer dans la fatalité du désespoir. C'est ce que l'enseignant essaie de transmettre à ses élèves, à l'université et dans les grandes écoles. L'essentiel pour moi, c'est de faire émerger le talent des jeunes, d'aller chercher au fond de chacun ce qu'il y a de meilleur. Profondément chrétien, Xavier Guillou se dit très sensible à la dernière encyclique de Benoît XVI, Pé Salvi. Un beau texte sur l'espérance, dit-il, qui peut nous aider à mieux comprendre et à mieux vivre l'actualité. Faire acte de foi, ajoute-t-il, c'est admettre avec humilité que nous nous situons quelque part entre le connu et l'inconnu, que nous ne maîtrisons pas tout. Or, la plus grande difficulté que je rencontre dans la gestion des crises est souvent le manque d'humilité et la prétention des sachants. Quelque part, conclut Xavier Guillou, cette espérance est en elle-même porteuse de cette recherche de sens dont nous avons tellement besoin et qui nous fait tant défaut aujourd'hui.
Alors sur l'espérance et le manque d'humilité des sachants, on va y revenir si vous voulez bien. Après l'évangile, c'est l'analyse que vous faites de Spécialvie en rapport justement avec vos activités. D'abord un petit point aussi, puisque vous êtes certes officier de réserve, mais de la Royale, de la Marine, avec votre bateau qui porte comme nom
Rebirth. On n'a pas réussi à trouver la traduction en breton, donc j'ai conservé, et Renaissance ça faisait trop long sur mon tableau arrière, et donc j'ai conservé ce mot anglais, ce qui est terrible pour un marin de la Royale, mais il est lié à toute une histoire, il est lié à...
Marqué RAF, ce sont trois mots français, hein.
Oui, Royal Air Force. Oui, tout à fait, et le kiosque gagne qui a été évoqué, c'est le Wooderswin de la tradition des SAS britanniques. Donc, je pense que l'entente cordiale est là. Mais non, Rebirth, c'est toute une histoire. C'est lié à Katrina, c'est lié à
le cyclone en 2005.
Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu sur le terrain à la Nouvelle-Orléans auprès des populations, alors que tout était détruit, tout était pulvérisé. La première puissance mondiale avait été mise à genoux, enfin toute cette modernité qui dans laquelle nous baignons avait été complètement détruite par les éléments naturels, et la population n'avait plus rien, 350 000 maisons avaient été détruites, etc. Et lors du premier carnaval, la population, alors qu'elle n'avait plus rien, avait rebaptisé cet événement Rebirth. Et alors que beaucoup des gens qui étaient, enfin des personnes qui étaient avec moi, étaient frappés par, je veux dire, la destruction, et ils ne voyaient que de la désespérance, du désespoir, etc. Dans la gestion de cette crise, moi j'ai ressenti au niveau de la population un acte de foi sur l'avenir assez extraordinaire que j'ai trouvé maintes fois au Liban, que j'ai retrouvé en Yougoslavie, que j'ai retrouvé dans plein d'autres circonstances.
Et ça vous a inspiré.
Et donc j'ai décidé d'appeler mon bateau Rebirth. Alors du coup maintenant c'est devenu toute une légende dans cette rivière de l'Odé, parce que bon, entre temps j'ai fait pas mal de choses avec, et sur ce tableau arrière, bah, il porte cette forme d'espérance qui me motive beaucoup dans l'existence.
Xavier Guillou, vous restez avec nous, l'évangile à 8h moins le quart, à tout de suite.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèvre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne-leur pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville, il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Cet évangile nous présente une désobéissance. Cet homme a demandé un miracle, il l'a obtenu. Jésus lui a demandé de se taire, cet homme a parlé et Jésus est pris au piège. Il ne peut plus entrer dans les villes, il est rituellement impur pour avoir touché un lépreux. Il ne peut plus être dans le désert, lieu de l'intimité avec Dieu, parce que les gens viennent de partout à lui pour chercher des miracles. L'attitude de ce lépreux montre une mauvaise relation avec Jésus. Jésus n'est qu'une machine à miracles. Si tu veux, tu peux me purifier, mais pourquoi Jésus ne voudrait-il pas? Donc, purifie-moi. C'est presque un ordre. Voilà pourquoi Jésus rabrousse sévèrement cet homme, en lui demandant le silence. La seule chose que Jésus demande à cet homme, c'est de se taire et de faire ce que le Père a demandé que l'on fasse quand on est guéri de la lèpre. Et cet homme n'en fait rien. Il parle. Le silence que Jésus nous impose, c'est un chemin par lequel on va pouvoir contempler Jésus et découvrir la raison pour laquelle il fait des miracles. Il vient nous purifier d'une lèpre, de quelque chose qui nous ronge le cœur, qui nous bouffe l'existence, pour parler de manière un peu familière. Mais cette guérison-là, laissons le temps à Jésus de la faire. Laissons le temps à la parole de Jésus de la produire en nos cœurs. Et pour ça, il nous faut l'écouter, il nous faut nous taire avant que de proclamer trop rapidement. Jésus est pris au piège, et c'est la suite de l'évangile qui nous dira comment il va sortir de ce piège.
Le père Éric Morin commentait et lisait l'évangile ce matin, curé à Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e, en ce jeudi 17 janvier.
Le grand témoin.
À bientôt 7h48, Xavier Guillou, notre grand témoin ce matin, consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique quand la France réagira. Aux éditions Erol, décryptage à présent après Rebirth, c'était en 2005, donc Katrina, qui a marqué un événement important dans votre cheminement, votre réflexion sur le risque et la notion de risque et d'espérance à la lumière aussi de Spécial Vie sur l'encyclique sur laquelle vous consacrez, justement, à laquelle vous consacrez sur votre site internet xavierguillou.com toute une réflexion de chef d'entreprise qui vous a valu d'ailleurs pas mal de réactions. Vous nous direz dans quelques instants quelles étaient ces réactions. Mais d'abord, je vous cite justement pour essayer de bien ancrer votre propos dans la notion de risque et d'espérance. Les peuples qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont cette foi dans la vie et dans autre chose de beaucoup plus spirituel que cette rationalité qui veut tout expliquer, classifier et organiser en vue d'égaliser les chances. Autrement dit, notre raison stratégique, notre calcul se retourne contre l'essentiel de ce que nous sommes.
Oui. Cette rationalité ambiante est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Notre meilleur ami parce que elle nous offre une méthode d'approche de la réalité et elle nous permet en effet de la maîtriser, enfin ou d'essayer de la maîtriser. Et notre pire ennemi parce qu'elle nous enferme dans une forme d'arrogance et dans une perte d'humilité vis-à-vis du mystère de la vie.
Donc la raison est l'ennemi de l'espérance. La raison poussée à l'extrême.
Elle devrait pas être l'ennemi de l'espérance. Elle devrait accompagner, je dirais, ce cheminement qui est propre à l'espérance. Mais elle est devenue l'ennemi de l'espérance parce qu'elle est devenue une fin en soi. Et elle s'est déconnectée des mystères de la vie. La raison est devenue, si vous voulez, la voie suprême pour tout expliquer, pour tout maîtriser, Et quand on ne peut plus expliquer, qu'on ne peut plus maîtriser, etc., eh bien...
On se retrouve dans une situation bien pire que celle qui aurait prévalu si on avait espéré, justement.
Moi, je vois bien dans mon métier, qui est celui de la gestion des risques, la gestion des crises. Bon, tant qu'on est dans la gestion des risques, on est dans une évaluation permanente de ce qui peut menacer la vie humaine, les êtres humains, nos sociétés, le matériel, etc. Et la tentation aujourd'hui, c'est de modéliser la vie en général, de l'enfermer dans des tableaux Excel avec des critères très virtuels. Et je dirais de sombrer dans une forme de mathématisation de l'existence. Et quand ça rentre plus dans les cadres de cette mathématisation, ben les gens sont perdus, quoi. Hein, ils sont perdus. Je dirais que l'angoisse actuelle que l'on voit au travers des évaluations qui sont faites dans les journaux ou par les experts, etc., est en grande partie liée à ça, à cette sophistication mathématiques, je dirais, de l'évaluation de nos risques.
C'est l'aliénation par la technique que certains philosophes avaient bien
pressentie. Oui, mais ça va très loin, parce que quand le risque n'est plus maîtrisé ou que vous avez par exemple une catastrophe naturelle ou vous avez les tribulations de la nature humaine avec des guerres qui sortent le traitement des risques des cadres habituels, eh bien là, plus personne ne sait faire. Plus personne ne sait faire et on s'aperçoit que cette réalité humaine ou ces mystères de la vie redeviennent très très prégnants, quoi, très forts. Hein, et ceux qui s'en sortent sont finalement ceux qui ont non pas des raisonnements simples ou simplistes, mais ceux qui ont développé d'autres dimensions et qui sont des dimensions beaucoup plus spirituelles, avec des prises de risques, qui sont beaucoup plus fondamentales, qui sont pas de l'ordre de la raison, qui sont
lesquels
qui sont liés par exemple à la vision de la vie ou de la mort, enfin. Croire en l'éternité ou pour certaines autres religions ou philosophies, croire en la réincarnation ou croire en d'autres cheminements, je veux dire, qui sont plus forts que simplement que notre existence terrestre, ça on peut pas l'expliquer, hein, on peut pas le prouver, on peut pas, mais c'est une prise de risque. Enfin, croire en l'éternité, c'est une prise de risque. Et pour ça, il y a un acte de foi. Enfin, je veux dire, et il n'est pas simple parce que il suppose de faire un acte d'humilité sur soi-même, hein, et sur sa façon de percevoir ou de voir l'existence, quoi.
La preuve est devenue l'ennemi du salut.
Oui,
ce que vous écrivez aussi.
Tout à fait. Et c'est ce qui est terrible dans la gestion des crises, c'est que dès que vous avez des événements majeurs, que ce soit une guerre ou que ce soit un désastre naturel, etc. Les experts ne voient dans la non maîtrise des éléments, hein, qu'ils soient humains ou naturels, eh bien, d'abord une faute technique ou une faute de management, de gouvernance, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et puis,
oui, il y a toujours une faute.
Oui, il y a toujours une faute. Et puis, point de salut, quoi. Et donc, on va essayer de trouver. On va essayer de trouver plein de dans tous les moyens, les instruments que l'on peut avoir, etc. Des biais pour essayer de cautériser l'affaire.
Xavier Guillou, c'est ce que vous aviez observé lors de Katrina, donc c'était en 2005, que ces forces de vie s'exprimaient à travers les cellules naturelles qui étaient porteuses de valeurs, en particulier la famille, la paroisse, la communauté.
Oui.
Et que c'est ce qui subsistait quand tout avait disparu.
Oui, alors je resitue cette affaire-là parce que c'est une affaire. Ce retour d'expérience était assez unique. On l'a fait sous pilotage d'EDF, parce que cette entreprise qui est un grand, enfin, qui fait partie des grands réseaux, de nos grands réseaux vitaux, s'était interrogée justement sur en cas de grands risques, de grandes crises majeures, comment fallait-il faire. Et on s'est aperçu que alors que tout le biotope local avait été détruit, hein, physiquement. et même humainement, eh bien, la reconstruction du système se faisait, d'abord la gestion de la crise, la tenue de la crise, et la gestion du système s'est faite à partir de la famille, ensuite de ce qu'ils appelaient la paroisse, hein, parish, et de la communauté.
Et des femmes qui jouent un rôle important.
Alors, les femmes ont joué un rôle important, les cellules de vie familiale ont joué un important. Et en fait, je me suis aperçu que ce que je ressentais depuis des années, des années et des années sur nombre de terrains, c'est en se recentrant sur des valeurs existentielles, sur des valeurs de vie très profondes, que les gens ont tenu et puis que les gens ont pris des paris sur la reconstruction d'une existence. Et quand j'ai discuté avec les populations, ou voire avec les grands leaders qui ont tenu cette crise, hein, eh bien, tous sont allés sur ces lignes d'horizon qu'on ne peut entrevoir qu'au travers d'un acte de foi très profond, quoi, qui notamment aux États-Unis est très porté par une certaine religiosité, hein, qu'on ne peut pas occulter. Je ne suis pas forcément sûr que nous aurions les mêmes effets chez nous,
les mêmes réactions,
même de la part de la population. Les mêmes effets, oui, tout à fait.
Parce que justement, notre vitalité spirituelle n'est pas la même.
Elle n'est absolument pas comparable. C'est-à-dire que nous, on s'est enfermé dans un matérialisme et un nihilisme ambiant qui est quand même très très fort. Et avec.
C'est ça qu'il faut dire aussi, Xavier Guillou, qui est un handicap justement.
Ouais, qui est un handicap.
Par rapport à d'autres, même dans l'efficacité économique, si on voulait raisonner de manière cynique.
C'est un handicap qui nous touche globalement.
A tout de suite, on va revenir sur d'autres aspects, bien sûr, de votre commentaire de Spécial Vie, l'encyclique du Pape. Puis on sera en ligne de Rome avec Isabelle de Gomain, correspondante de La Croix, pour commenter des événements romains qui se sont passés cette semaine. A tout de suite.
Chaque jour, de 10h à midi, Étienne Lorailleur et Anne Gavini vous font aimer votre région, l'Île-de-France. Ces témoins de la foi dans tous les domaines de la vie, ces événements, petits et grands, un vrai magazine régional proche de vous. Le 10h midi, c'est aussi le mot de l'archevêque de Paris et l'éclairage de Marie-Noël Tabu sur les textes de la liturgie du dimanche. Rendez-vous en Île-de-France du lundi au vendredi de 10h à midi sur Radio Notre-Dame.
À l'occasion du 150e anniversaire des apparitions, le docteur Tellier, responsable du bureau médical de Lourdes, cite dans son livre « Lourdes, des miracles pour notre guérison » de nombreux témoignages de guérison officiellement reconnus. Et en homme de foi, il raconte les merveilles accomplies dans les cœurs et souvent passées sous silence. « Lourdes, des miracles pour notre guérison » aux presses de la Renaissance.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03, 42 11 03 03.
L'histoire avec un grand H, c'est l'histoire des objets et des œuvres d'art qui parviennent jusqu'à nous. Au cœur de Paris, à la Maison Philippe, découvrez ces objets chargés d'histoire.
Mobilier, tableaux, bronze, bijoux anciens et modernes, vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, la Maison Philippe les estime gratuitement sur rendez-vous.
Succession, partage, la Maison Philippe paye vos biens comptants.
Maison Philippe, Antiquité Raspail, vente et achat d'antiquités dans le 6e, 106 boulevard Raspail, face au métro Notre-Dame-des-Champs. 01 45 44 29 33, 45 44 29 33.
3. Nazareth, Tibériade, Bethléem, Jérusalem. Partez découvrir la Terre Sainte, venez à la rencontre du Christ et entrez dans les évangiles. Pèlerinage en février, mars et avril à partir de 960 euros. Renseignements au 01 41 12 04 80, 01 41 12 04 80 ou sur www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
Génération.
Bonsoir.
Génération.
L'église, elle dit un truc là-dessus ou pas ?
Waouh !
À votre avis, qu'est-ce qu'elle peut dire déjà ?
C'est un truc de ouf.
Est-ce que finalement être jeune, c'est forcément être irréfléchi ?
C'est énorme.
Génération, présentée par Marco, du mardi au vendredi à 21h.
N'attends jouer.
Écoute dans la nuit.
Dans Écoute dans la nuit, nous faisons chaque soir une découverte. Dieu trace un chemin dans le cœur de tous les hommes.
Partez avec moi dans cette aventure passionnante en apportant vos questions, vos témoignages, votre réflexion. Alors, n'hésitez pas, je compte sur vous.
Écoute dans la nuit, présenté par Chantal Bally, du mardi au vendredi à 22h. Le 6h-9h.
Jeudi 17 janvier, le grand témoin ce matin, Xavier Guillou, consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique quand la France réagira aux éditions Erol. Notre grand témoin jusqu'à 8h30, vous avez une adresse électronique pour réagir, legrandtémoin@radionotredame.com. 8h, les infos, Jean-Marc Requez.
Bonjour, cette année, vous le savez, pas de Dakar pour cause d'insécurité sur le parcours, mais Dakar Solidario, la fondation espagnole qui devait accompagner le rallye raid, a remis hier 15 tonnes d'aide humanitaire à la Mauritanie. Dans ce pays, 14 personnes ont été arrêtées par la police mauritanienne après l'assassinat des 4 touristes français dans ce pays. C'était le 24 décembre. Les parties civiles saluent un jugement historique, près de 200 millions d'amendes, record infligées hier par la justice dans l'affaire du naufrage de l'Erika. Sont concernés par cette peine totale, mais aussi le propriétaire, le gestionnaire et la société de contrôle qui n'aurait pas dû mégoter sur les réparations de ce navire vieux de 25 ans. C'était en décembre 99. L'Erika avait alors déversé 20 000 tonnes de fioul lourd, surtout sur les côtes de Vendée. La fréquentation du croisic en avait pâti durant plusieurs années. Cette station balnéaire figurait d'ailleurs parmi la centaine de parties civiles, ostréiculteurs, régions du littoral atlantique ou organisations de défense de l'environnement. Chacun salue unanimement ce jugement qualifié d'historique qui reconnaît pour la première fois la notion de préjudice écologique. Le Vatican publie le discours que le pape devait prononcer aujourd'hui à la Sapienza, cette visite annulée à la suite de l'opposition à la venue du pape exprimée par certains enseignants ou élèves de cette université romaine. Le Saint-Père souligne dans ce texte que le pape est devenu de plus en plus une voix de la raison éthique de l'humanité et que la sagesse des grandes traditions religieuses ne peut être impunément jetée à la poubelle de l'histoire des idées. La quasi-totalité de la classe politique italienne, dont le président de la République, Giorgio Napolitano, a apporté son soutien au pape. Une visite, celle du cardinal Tarcisio Bertone, qui sera bientôt à Cuba. Le secrétaire d'État du Vatican et principal collaborateur du Saint-Père se rendra dans l'île du 20 au 26 février. Un voyage à l'occasion du 10e anniversaire du déplacement du pape Jean-Paul II à Cuba. C'était en janvier 98. Et hier à Madrid, deux dissidents cubains soulignaient les conditions de détention de nombreux prisonniers politiques et journalistes à Cuba. Ils évoquaient une situation qu'ils qualifiaient de dramatique. La révision de la Constitution adoptée hier par les députés, les socialistes se sont abstenus après que les sénateurs se soient prononcés à leur tour. Ce sera dans quelques jours. Ce vote permettra le congrès de Versailles au début du mois de février. La Constitution sera alors modifiée pour permettre l'adoption du traité européen de Lisbonne. Il n'est pas question de vendre des médicaments dans les supermarchés. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, l'a redit cette semaine. Mais ces médicaments pourraient être proposés dans les pharmacies en libre-service, du moins ceux vendus sans ordonnance non remboursée.
Merci Jean-Marc Roquez. Prochain point sur l'info, c'est à 8h30 avec le journal de Radio Vatican. Le grand témoin ce matin, Xavier Guillou, consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique quand la France réagira aux éditions Erol. Il a commenté déjà la décision que représente la peine maximale pour Total, c'est dans le cadre bien sûr de l'atteinte à l'environnement causée lors du naufrage du pétrolier Erika. C'était le 12 décembre 99 et on a pu l'étudier sous l'angle de votre spécialité, la connaissance du risque en particulier et de tous les changements que cela va occasionner pour la notion de responsabilité, en particulier de responsabilité groupée à la fois du côté des victimes et de ceux qui des opérateurs économiques. À présent, nous sommes en ligne avec Isabelle de Gomain. Bonjour Isabelle de Gomain.
Bonjour.
Correspondante du journal La Croix à Rome pour commenter deux événements romains survenus cette semaine. Alors d'abord, celui qui aurait dû se dérouler aujourd'hui, puisque Benoît XVI ne se rendra pas à la cérémonie d'ouverture annuelle de l'université La Sapienza. Une visite que le pape a préféré annuler après plusieurs jours de polémique dans le milieu enseignant hostile à voir Benoît XVI s'exprimer dans une enceinte laïque. Est-ce que, Isabelle de Gomain, l'Italie commence à connaître une situation aussi tendue qu'à l'espagnol ? Quel est votre avis ?
Non, je pense pas. En fait, il faut peut-être remettre cette polémique à son juste niveau. C'est-à-dire que c'est quand même une minorité, vraiment une minorité d'enseignants et puis une minorité d'étudiants qui ont réussi à bloquer le système. Peut-être plus parce qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est très faible et qui ne prend pas ses responsabilités, puisqu'il a dit « je peux assurer la sécurité de la personne du pape, mais pas l'ordre public qu'il y aura autour ». Donc c'est quand même un peu paradoxal pour un gouvernement, et c'est ce qui explique que Benoît XVI ait renoncé à aller à l'université. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant aujourd'hui dans la société italienne un certain nombre de personnes qui veulent faire des réformes de société à l'espagnole ou à la française, mais on en est quand même pas là.
Et comment interprétez-vous cette crispation ? C'est vraiment un épiphénomène ou bien c'est le signe que Benoît XVI dérange, déplaît fortement ?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'une part, c'est un pape qui est compliqué. Son analyse est toujours très compliquée. Là, il s'agit, en fait, le prétexte de ce refus, c'est un discours qu'il a fait en 90 à propos de la science et de la foi. C'est un très beau discours où il parle de Galilée. Et en fait, évidemment, il ne justifie pas le procès Galilée. C'est vraiment rien n'est plus loin de sa pensée. Mais comme à chaque fois, il commence à donner le jugement inverse pour ensuite arriver à son jugement à lui. Donc c'est vraiment toujours un pape très compliqué. Et il ne parle pas par slogan, il ne parle pas par petites phrases. Et dans notre société, ça a du mal à passer. Donc ça, je crois que c'est la première chose. La seconde chose, c'est une société italienne où effectivement les partis politiques ne sont aujourd'hui plus rien et où la seule autorité politique et la seule institution qui a une vraie voix, c'est l'Église. Et ça en agace effectivement un certain nombre, notamment à gauche.
Les réactions dans la société civile et le monde politique sont quand même globalement favorables à Benoît XVI, à l'idée en tout cas qu'interdire le débat, c'est une chose répréhensible.
Ah oui, franchement, hier matin, moi, j'avais le sentiment que l'Italie se réveillait avec la gueule de bois, ne sachant pas ce qu'elle avait fait, et en fait avec une grande honte. D'ailleurs, ce mot de honte, de vergogne, ça a été utilisé à plusieurs reprises. Donc vraiment pour eux, c'est pas du tout conforme à la tradition de tolérance de l'Italie habituelle. Hein. Et c'est vrai que ça faisait depuis le Concordat qui a été signé en 1929 que on n'avait jamais vu un pape interdit de sortir dans Rome. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'insupportable pour la plupart des Romains et des Italiens, et qui s'explique par un concours de circonstances qui ont été assez mal gérées de part et d'autre.
Un deuxième point, si vous le voulez bien, Isabelle de Gomain, c'est dimanche dernier, Benoît XVI a célébré la messe d'eau au peuple à la manière dont cela se fait dans le rite de Saint-Pie V, auquel le pape a donné de l'oxygène déjà il y a 6 mois avec le motu proprio. C'était dans la chapelle Sixtine. Comment faut-il interpréter ce geste ?
Oui, alors d'abord il faut bien préciser, parce qu'il y a eu des explications qui n'ont pas été tout à fait exactes, que ce n'était pas en rite tridentin, c'est-à-dire qu'il était d'eau au peuple. Mais il a suivi après toute la liturgie et tout le missel ordinaire de Paul VI. Alors l'explication, elle est de deux ordres. La première, elle est peut-être un peu esthétique, c'est-à-dire que vous connaissez la chapelle Sixtine. Et en fait, il y a un autel qui est contre le mur et au-dessus duquel il y a le jugement dernier de Michel-Ange. Et donc à chaque fois, on remettait un espèce d'autel en bois au milieu. Bon, je dirais pas une planche à roulettes, mais c'était un peu ça. Et donc il y avait la volonté de respecter le lieu. La deuxième explication plus profonde, c'est que ça va dans le sens, je crois, de ce que Benoît XVI voulait avec son motu proprio, c'est-à-dire réinjecter dans le rite actuel des éléments du rite ancien que lui estime plus aptes à favoriser la prière.
Merci beaucoup Isabelle de Gomain pour ce commentaire justement qui nous permet de mieux comprendre l'actualité romaine qui a rebondi à deux reprises cette semaine. Merci. Et je rappelle que vous êtes correspondante du journal La Croix à Rome. La Croix qui ce matin fait sa une sur Nicolas Sarkozy qui bouscule la laïcité et pas justement sur ces événements romains que nous venons de commenter. Mais enfin, c'est aussi un aspect important, la laïcité. On pourrait également en parler, d'ailleurs, Xavier Guillou, puisque vous auriez des choses à dire. Je rappelle que l'actualité romaine est aussi un petit peu notre fil rouge ce matin avec Spe Salvi, l'encyclique du pape que nous commentons à la lumière de votre regard, qui est celui d'un spécialiste des questions de risque. Peut-être d'abord un commentaire de ce que vient de dire Isabelle de Gomain.
Oui, je partage tout à fait l'analyse d'Isabelle de Gomain. C'est-à-dire que ce soit sur, la réaction la petite soixantaine d'enseignants et des quelques étudiants de la Sapienza ou des commentaires qui ont été faits sur la messe de ces jours derniers, d'autant que je connais en plus ça, la chapelle en question. Je crois que là-dessus...
Qui de fait est exigu.
Oui, de fait est exigu, etc. Donc, je crois que là-dessus, on a... C'est dans les crises que je côtoie, c'est un risque permanent, c'est l'utilisation du média, de l'instantanéité que nous avons aujourd'hui et qui est permise grâce à Internet ou au multimédiatique, eh bien on peut faire dire tout et son contraire à l'information. Et on peut l'instrumentaliser encore plus qu'il y a 20 ans et je dirais lui donner des ressorts plus ou moins idéologiques. Là, je crois qu'on est on est totalement dans l'idéologie. Ce sont des petites minorités très ultra-gauchistes qui sévissent dans les milieux romains, qui ont marqué un coup, mais je suis pas forcément sûr que ils ont peut-être gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre.
Le coup en retour, en fait,
je pense que
différent.
Benoît XVI a très bien fait de ne pas rentrer dans cette pseudo-confrontation et de profiter de cet événement pour faire passer un message que je trouve finalement très fort. Il aura finalement plus d'audience grâce à cet événement-là. Et paradoxalement, pour ceux qui voulaient créer de l'audience...
L'événement n'est pas là où il est.
L'événement n'est pas là où il est. Et finalement, moi j'ai trouvé dans la réaction de l'Observatore Romano ce matin, cette phrase qui est relatée par Le Figaro, que je trouve très intéressante. Il dit, si la raison devient sourde au grand message qui vient de la sphère chrétienne et de sa sagesse, elle est déracinée comme un arbre dont les racines ne plongent plus dans les eaux qui lui donnent la vie. Et je pense que de faire passer ce message, qui est que cette espérance chrétienne repose sur l'amour et la sagesse de tout un cheminement, bon, qui est incarné par la vie du Christ et puis par le don de soi, mais le don de lui, hein, au sens de sa relation avec le Père. Si nos sociétés ne font pas la démarche, hein, de revenir vers cette philosophie de l'amour et de la sagesse, nous passons à côté de plein de choses. Or, tous ceux qui ont essayé de bloquer, le pape, c'est parce que leur religion politique leur interdisent d'aller sur ces champs-là. Je veux dire, quand vous discutez avec ces idéologues, je veux dire, l'amour les gêne beaucoup. Pas pour certaines choses, mais pas pour la philosophie du plaisir, mais pour la relation à autrui, la relation au prochain, etc., ça les gêne beaucoup.
Pour le risque.
Dans la gestion du risque, ce sont les premiers, je veux dire, tous ces grands philosophes de la raison positiviste, hein, et au bout de la dialectique matérialiste, hein, pour prendre le cas d'un certain nombre de ces grands professeurs, ce sont les premiers qui ont administré la vision du risque sur en prenant comme postulat de base une déshumanisation de la société. Et donc une administration de la relation à l'autre, du lien social, du lien humain. Alors que c'est l'inverse. Et ce que je trouve très 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 important dans cet événement, c'est que le pape a osé poser un certain nombre de questions. Il a osé réouvrir ce champ du questionnement qui est absolument indispensable pour la survivance de nos sociétés aujourd'hui. Et c'est ce que refusent ces milieux un petit peu agités ou agitateurs
de la Sapienza. Alors Xavier Guillou,
c'est vraiment très marginal comme événement, mais ils sont en train de donner finalement une audience au pape que même le pape, à mon avis, n'espérait pas.
Toute proportion gardée, le commentaire que vous faites sur votre site xavierguillou.com de l'encyclique du pape Spécial Vie a reçu des commentaires extrêmement contrastés de la part de personnes justement qui se réclament de la vision positiviste.
Oui, alors moi, il y a toutes les réactions de mes amis, chrétiens d'Occident, chrétiens d'Orient, parce que j'ai les deux, et donc tous étaient très contents que je m'engage sur ce plan-là, etc. Enfin bon, je passe, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de convaincre les gens qui sont convaincus, c'est de débattre avec les gens qui ou se posent des questions ou ne se sont pas posés des questions. Et c'est plutôt avec mes amis laïcs, voire très laïcs, que j'ai eu des débats assez intéressants. Et le débat portait essentiellement sur, au-delà de l'espérance, sur le fait religieux. Fait religieux qu'ils ont évacué de leurs analyses, pensant que que Dieu était bien mort et que donc il y avait plus de raison au sens de la raison de le mettre dans le cahier des charges des réflexions. Et ça fait depuis quelque temps que je ne cesse de leur dire, vous devriez quand même
évoluer sur ce point,
et dans votre analyse de nos sociétés, des risques que l'on a assumés, remettre dans vos priorités l'analyse des faits culturels, l'analyse du religieux, enfin, du fait religieux, l'analyse des grandes démarches philosophiques, spirituelles, etc., qui sous-tendent quand même la vie des peuples aujourd'hui. Et je dis, quand on regarde ces faits culturels, ces faits religieux, etc., on retombe toujours sur cette quête des mystères de la vie et sur cette recherche d'espérance et pas simplement d'un petit espoir de croissance.
Xavier Guillou, justement, vous allez commenter aussi des réflexions qui ont trait à l'espérance et que l'on retrouve ce matin dans la revue de la presse chrétienne de Marion Duchesne. Bonjour Marion.
Bonjour Louis, bonjour Xavier.
Bonjour.
Avec une réflexion donc sur l'espérance à lire d'abord dans les colonnes de Réforme.
Ah oui, voilà justement de quoi faire écho à votre réflexion, Xavier Guillou. Vision apocalyptique.
Alors je ne sais pas si l'on vous entend correctement, voilà. Marion voilà. Duchesne. Peut-être que, voilà, de l'autre côté, Jean-Paul, qui s'affaire, va justement ouvrir simplement votre micro.
Le bon micro.
Le bon micro. Ah oui, c'est aussi de la technique, la radio.
Voilà. Donc Louis, oui, merci. Pour reprendre sur cette réflexion à lire sur l'espérance dans les colonnes de Réforme. De quoi faire écho, je le disais, à votre réflexion, Xavier Guillou. Vision apocalyptique du monde, on l'a vu récemment avec la tribune de René Girard, ou sérénité indifférente, catastrophisme ou optimisme béat. Nous sommes toujours dans les extrêmes, hein, jamais de juste milieu. Alors quel pourrait être un regard sensé à poser sur le monde? Eh bien, c'est justement à cette question que Réforme tente de répondre. Il y a une petite brèche, note l'hebdomadaire, une brèche ouverte sur l'espérance-confiance. Il ne s'agit pas d'une attitude spirituelle désincarnée qui regarderait la marche de l'histoire en surplomb. Non, souligne Réforme, l'espérance-confiance est une reconnaissance pour la création et nos existences que Dieu nous donne comme une bénédiction que Dieu confie à notre responsabilité. C'est cette petite brèche de l'espérance-confiance qu'il nous faut donc à tout prix conserver. Et pour cela, conclut Réforme, il nous faut garder une lucidité critique, éviter d'en rajouter au tohu-bohu. Voilà donc de quoi réfléchir avec vous, partager, débattre peut-être, Xavier Guillou.
Voilà le nouveau paradigme, espérance-confiance. Réflexion à ce sujet, Xavier Guillou. D'ailleurs, René Girard est cité, et on l'évoque à propos, bien sûr, de sa vision de l'Apocalypse aujourd'hui. Est-ce que vous avez médité sur H.V. Clausewitz, son dernier ouvrage?
Je suis en train de le lire. Donc
Alors
Ben, vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la Sapienza. Tous ces grands philosophes, toutes ces références qui sont liées à notre modernité d'hier, sont des gens qui sont en train de se rendre compte, beaucoup sont en train de se rendre compte que leur référentiel, tout leur référentiel leur échappe. Et que c'est autre chose qui est en train de se construire. Je crois qu'on est dans une période où nous sommes en train de changer d'air, nous sommes en train de changer de
AIR et ERE.
Tout à fait. Non. D'air au sens ERE.
ERE.
Voilà. C'est-à-dire que.
Mais l'oxygène aussi, hein, on peut s'aérer l'esprit autrement, peut-être.
Oui, tout à fait. Mais bon, je pense qu'on est en train. On est face à des franchissements de seuil, comme je le disais en introduction, qui sont importants. Alors, bien entendu, ces franchissements de seuil, ils sont toujours très angoissants parce que on comprend bien ce qui s'est passé hier, on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se mettre en mouvement, de ce qui est en train de se construire. Alors, c'est vrai que René Girard est un philosophe intéressant parce qu'il est à mi-chemin. Il est à mi-chemin entre. Il comprend très très bien ce qui s'est passé. Et dans Clausewitz, il. C'est presque un lapsus que je dis. Non, mais c'est faire notre deuil d'une certaine vision de l'histoire, du pouvoir, de la puissance, de notre rôle, de notre suffisance, etc. Le monde qui se construit aujourd'hui est un monde de. Où ce sont d'autres qui sont en train de mettre en place de nouveaux référentiels et autres. Et donc il faut qu'on sorte de notre, des méthodes qui nous ont apporté, je dirais, cette toute puissance.
Mais ce retour de l'espérance.
Cette arrogance aussi, cette arrogance dans la conduite des choses de la vie, mais aussi des hommes et des sociétés.
Mais la fin de cette arrogance et ce retour de la confiance, de l'espérance, est-ce que ce n'est pas une production de notre propre système qui s'est emballé et qui est tellement imprévisible que, somme toute, on est obligé de s'en référer à autre chose? Ce n'est pas forcément une prise de conscience spirituelle, ça peut être simplement un effet pervers du système.
C'est aujourd'hui, nous sommes sur un effet pervers du système. Et cette prise de conscience ou cette conscientisation de nos sociétés, elle est encore balbutiante, elle est très désordonnée, très.
À nous de lui donner forme.
C'est à nous de lui donner forme. Enfin, c'est à nous de créer les termes d'un cheminement, quoi, qui ne sont pas encore forcément très visibles.
L'élection présidentielle, Marion Duchesne, c'est l'occasion de débats sur le vote des catholiques, centré sur une remise en cause de la théorie du moindre mal. C'est à ce rapport entre les chrétiens et la politique que la Nef consacre un dossier.
Oui, avec notamment une réflexion de Joël Hautzbert, professeur d'histoire du droit à l'université d'Angers. Le phénomène général de dépolitisation n'épargne pas le monde catholique français, dit-il. Entre la mondialisation des rapports humains et la balkanisation des identités, les chrétiens se sentent perdus. Un sentiment accentué, selon Joël Hautzbert, par le déficit flagrant de connaissances doctrinales élémentaires. Les chrétiens doivent-ils pour autant renoncer à la politique? Bien sûr que non, répond le professeur, mais il ne doit pas pour autant, comme aux États-Unis, recourir systématiquement à la loi évangélique comme source directe d'organisation de la cité. Joël Hautzbert le rappelle, il faut préserver la juste distinction du temporel et du spirituel. Il serait fortement préjudiciable, conclut-il, que le dynamisme visible d'un bon nombre de communautés religieuses nous dissuade d'exercer pleinement nos responsabilités civiques au motif que nous vivons dans une dissociété. À nous de restaurer, dit-il, la société politique française, à nous de lui donner forme, vous disiez, il y a un instant.
Ben voilà, justement, ça rejoint exactement le pressentiment que vous aviez, Xavier Guillou, justement, sur Joël Hautzbert dans la Nef.
Oui, tout à fait. Je pense que cette balkanisation des identités est la résultante d'une déstructuration de nos sociétés et d'une perte de sens. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait le constat. Le problème, c'est qu'au-delà du constat, comment fait-on pour pouvoir remettre en cheminement, je dirais, ces identités qui se situent entre des gens complètement paumés, un mal-être ambiant. Et
mais c'est
puis,
là que les chrétiens doivent jouer leur rôle, justement.
Oui, et c'est là où je pense que je reviens à l'encyclique. C'est un livre, enfin, je devrais recommander plutôt de lire les miens, mais celui de Benoît XVI coûte moins cher que le mien. Ça coûte 3 euros, je crois, 3 ou 4 euros. C'est 77 pages. C'est extrêmement lisible. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était illisible. Je suis désolé, c'est extrêmement lisible. Il faut faire un petit effort de lecture lente pour pouvoir rentrer dans le sujet. Mais ça permet de pouvoir répondre à cette question que vous évoquiez, madame, c'est-à-dire la perte de substance, quoi. C'est-à-dire que s'il y a perte d'identité, il y a perte de sens, parce qu'il y a une perte de connaissance et de substance. Nous ne sommes plus habités au sens de l'habitus. Et du fait que nous ne sommes plus habités, parce qu'il y a tout un passage dans ce domaine-là, dans Spécial Vie, ben nous n'arrivons pas à aller sur cette substance qui est à la base de l'espérance, c'est-à-dire ce qui fait acte de foi. Moi, je vois, par exemple, pour illustrer le propos, hein, si vous me permettez une minute, j'ai dans le cadre de mes activités professionnelles, je fais souvent subir des exercices aux entreprises que je conseille. Donc on fait des exercices pour tester les gens, etc. Puis on fait des exercices où on pousse les gens sur des dimensions existentielles. Et un jour, il y a un patron qui avait devant une prise de décision, qui avait son aéropage autour de lui, qui lui disait « faut surtout pas faire ça pour ci, faut surtout pas faire ça pour ça ». Tout était rationnel dans les décisions qui lui étaient conseillées. Et je lui ai dit « attendez, là vous êtes face à des problématiques de vie ou de mort pour des populations, pour des gens, etc. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans une dimension qui est une dimension trop rationnelle. Vous devez incarner
vous devez incarner ce que vous ressentez profondément. Et il m'a répondu la chose suivante, il me dit, vous me demandez de faire un acte de foi. Et je lui ai dit devant tous ses collaborateurs, qui étaient des hyper techniciens et des experts, je lui ai dit, oui monsieur, vous devez, pour, peut-être pour la première fois de votre vie, faire un acte de foi. Il me dit, mais c'est une sacrée prise de risque. Et ben je lui ai dit, c'est ça la foi. La foi, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque sur les choses de la vie. Et c'est une prise de risque vis-à-vis des autres. Et c'est en même temps, après on a discuté ensemble, je dis, c'est à la fois un acte d'amour et un acte de sagesse. C'est, et ça, vous ne pouvez pas l'expliquer avec un tableau Excel. Vous ne pouvez pas l'expliquer avec un PowerPoint. Vous ne pouvez que le transmettre, le communiquer, et vous avez quoi? Vous avez 3-4 mots pour l'exprimer à une communauté de personnes ou à un pays, voilà. Et du reste, il a suivi mon conseil et ça a complètement changé le management de la crise. Et il s'en est rappelé, parce que après, il a eu en effet une vraie crise à jouer et il est revenu sur cette sur ce moment fort qu'il avait vécu, il a reproduit, cet acte de foi très personnel, et ça a permis de régler la crise en question.
L'espérance, Xavier Guillou, qui sera donc notre fil rouge ce matin, et justement on le retrouve dans les pages du Figaro et dans les pages débat, eh bien si notre jeunesse est brillante, avec cet article de Chantal Delsol, les lieux l'intéressent davantage que les époques et la géographie triomphe de l'histoire. Mais voilà, pour justement contrecarrer une idée préconçue, je lis ou j'entends dire, nous dit Chantal Delsol, presque chaque jour que nos étudiants sont un culte et que le niveau a baissé horriblement. Il me semble que cette croyance provient de nos nostalgies de l'immuable, exprimées à toutes les époques, au moins depuis Aristophane. Il me semble que le pourcentage de jeunes cerveaux brillants et cultivés ne change guère. Cependant, la culture a largement changé d'aspect. Je dirais qu'une culture du temps a laissé place à une culture de l'espace. D'abord, alors je ne vais pas tout lire bien sûr, hein. Qui était le jeune étudiant des années 60? D'abord un latiniste et un helléniste. Donc tout cela a évolué et on pourra lire le contenu de cette réflexion dans les pages du Figaro. Un article que vous avez lu, Xavier Guillou, pour
que conclure. Que je trouve remarquable parce qu'en fait, il m'a renvoyé 30 ans en arrière. Et c'est vrai que ce qu'elle évoque, il y a 30 ans, j'ai ressenti la même chose. C'est-à-dire que, vous savez, on dit toujours, enfin je ne sais plus quel était le philosophe grec, mais enfin, qui disait grosso modo, nos jeunes sont insupportables, ils respectent pas les lois de la cité. Il me semble que c'était Socrate qui disait ça. Et on n'y arrivera jamais, c'est des bons à rien, etc. Non, toutes les jeunesses de tous les temps sont réfractaires à l'espace-temps qui est celui qu'on leur impose, et sont créatifs, ils sont enthousiastes.
Ce qu'il y a, c'est que ça s'est accéléré quand même. On a le sentiment que la machine, non, même de, dit, depuis 50 ans, ça va beaucoup plus.
À mon avis,
vite.
Ce qu'elle dit est extrêmement important. Elle dit il y a un choc de génération. Il n'y a pas un choc interculturel ou interconfessionnel ou intercommunautaire, etc. Il y a un choc de génération. C'est-à-dire que dans la vision de l'espace-temps, ce qui fait la grande différence entre notre jeunesse et puis ses aînés, je dirais notamment la génération de 68, c'est cette différence de vision de l'espace et du temps. L'espace, aujourd'hui, il est mondial pour la jeunesse, et le temps est de l'ordre de l'instantané. Alors ça explique peut-être cette problématique de l'évaluation, notamment des risques ou des événements que l'on traverse, où il faut une lucidité un peu critique, mais en même temps créative. Et à mon avis, ce qui panique les gens aujourd'hui, c'est que vous avez des convergences, des phénomènes d'accélération, et que tout ça arrive en même temps, quoi. Et qu'on n'a pas les grammaires ou les référentiels pour pouvoir les analyser correctement.
Eh bien, on pourra puiser notamment dans votre réflexion avec votre site xavierguillou.com. Dans l'encyclique du pape, bien sûr, avec Spécial Vie que nous avons commenté ce matin. Xavier Guillou, je rappelle que vous êtes consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique. Quand la France réagira aux éditions Erol, la France, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de toute façon, il y aura d'autres échéances qui vous permettront de revenir, de faire partager vos réflexions. Bonne journée.